Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On annonçait la semaine dernière l'exécution ciblée en Syrie de Fabien Klein, ce Français qui fut l'un des principaux recruteurs de djihadistes dans l'Hexagone et l'un des mentors idéologiques de Mohamed Merah. Pendant ce temps, les ultimes soldats de Daesh sont aux mains des Kurdes et l'État islamique perd ses derniers bastions territoriaux. 4 ans après la grande vague d'attentats qui a fait en France quelques 130 morts et plus de 400 blessés, une page se tourne, une nouvelle histoire commence. Mais de quelle façon la culture de masse, le cinéma et la télévision en particulier, s'emparent-ils des événements de ces dernières années? Quelle narration collective est-elle en train de se mettre en place et avec quels enjeux, alors que l'on parle de plus en plus non plus des départs pour le djihad, mais du retour des djihadistes et de leurs familles en France, retour auquel s'oppose d'ailleurs une majorité de Français, si l'on en croit un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro rendu public en fin de semaine. Avant le film d'André Téchiné « L'adieu à la nuit » présenté à la Berlinale cet hiver et qui sortira ce printemps, sort mercredi le film « Exfiltré » qui raconte le départ volontaire au printemps 2015 d'une jeune femme africaine convertie à l'islam et de son fils de 5 ans pour Raqqa, la capitale entre guillemets de l'État islamique, et les efforts que vont déployer son mari pour l'exfiltrer et la faire revenir. Dans le film, la jeune femme s'appelle Faustine, elle est africaine et son mari Sylvain est blanc. Le dossier de presse nous apprend qu'Exfiltré tire son origine d'une histoire vraie et des témoignages détaillés de ses 5 protagonistes principaux recueillis par le scénariste Benjamin Dupas et le cinéaste Emmanuel Hamon. Habitué à écrire pour des séries de télévision, Dupas dit en avoir emprunté les méthodes pour raconter l'histoire. Mais raconter une histoire vraie suffit-il à raconter la vérité d'une histoire ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marc Ecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de publication de l'Institut français des relations internationales, IFRI. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique étrangère. Vous êtes chercheur au Centre des études sécurité de l'IFRI et prof à Sciences Po, c'est ça ? Oui. Où vous dirigez un cours sur le terrorisme et les guerres asymétriques. Et vous êtes l'auteur de Warfare 2.0 et de Intifada française de l'importation du conflit israélo-palestinien chez Ellipse en 2012, qui a été salué pour la richesse de sa documentation. Vous avez aussi récemment publié plusieurs études à l'IFRI, donc « Quel avenir pour le djihadisme ?» et « 137 nuances de terrorisme, les djihadistes de France face à la justice », dont on va un peu parler dans le cadre de cette discussion sur le film. Samuel Blumenfeld, bonjour.
Bonjour.
Je ne vous présente plus, vous êtes critique de cinéma au Monde, grand reporter au Monde 2, auteur de plusieurs ouvrages et surtout d'un nombre impressionnant d'interviews de fond avec des cinéastes, les plus grands cinéastes contemporains, américains en particulier, Brian De Palma, Clint Eastwood et beaucoup d'autres.
Martin Scorsese.
Martin Scorsese, voilà. Voilà. Et Emmanuel Hamon, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas Martin Scorsese, non, mais vous êtes le cinéaste, auteur d'Exfiltré. C'est votre premier film de fiction. Mmh. Vous avez réalisé jusqu'à présent des documentaires, dont un sur Maurice Papon, Itinéraire d'un homme d'ordre, un film sur l'utopie qui s'appelle L'utopie des images de la révolution russe, qui a été présenté à la Mostra de Venise en 2017. Et aussi un portrait d'Edouard Saïd qui a été coproduit par Al Jazeera, c'est ça ?
Oui, il y a un moment, oui. Edouard Saïd était encore vivant à ce moment-là, oui.
Oui. Et aujourd'hui, donc, votre premier film de fiction, Exfiltré. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de filmer là-dessus et comment c'est né ?
Alors,
en pourquoi avoir choisi la fiction aussi ?
Ouais. Alors, en fait, je vais vous raconter la genèse de la chose. Un jour, un des deux producteurs du film me raconte cette histoire que j'ai trouvée immédiatement, porteuse de fiction, c'est-à-dire évidemment racontant des choses du monde réel qui nous entoure, de sa complexité. Mais en même temps, porteur de personnages très très forts, d'une dramatique. J'avais lui-même, quand il m'a raconté l'histoire, envie de savoir la fin. Et donc porteur d'éventuellement de personnages complexes, denses, et qui pouvaient, je dirais pas humaniser la chose, mais en tout cas permettre de rendre ce que je trouve toujours intéressant dans le cinéma de fiction, des personnages forts qui pouvaient nous amener dans une histoire dramatique forte elle aussi. Et puis en fait ce producteur m'a donné une première version du scénario qui avait été écrit par Benjamin Dupas, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui portait tout à fait, enfin il y avait, on a travaillé pendant une bonne année après avec Benjamin, mais il y avait, c'était déjà justement porteur de cette forte dramatique, de cette espèce de récit choral, mais qui permettait quand même de faire la place à chacun des personnages et de faire avancer cette histoire en parallèle entre la France, un peu la Turquie et la Syrie.
Vous dites que c'est une histoire qui est immédiatement porteuse de fiction et que vous avez envie d'en connaître la fin. En même temps, on est tous frappés par le fait qu'effectivement, ces histoires de terreur et de terrorisme sont... On a l'impression que le monde a basculé dans une forme de fiction, mais dont on ne connaît pas la fin, précisément. Est-ce que le choix d'un documentaire était... vous avez hésité à un moment donné entre le documentaire qui préservait l'absence de fin et
non, sur cette histoire-là, moi, j'ai pas du tout hésité, mais j'insiste beaucoup et c'est aussi, ça fait partie de, je sais pas si c'est une humilité du cinéaste, mais faut faire attention à ça. D'autant plus moi qui viens du documentaire, c'est-à-dire, je sais très bien que quand je raconte certaines histoires en documentaire, voilà, c'est le bon support. J'ai fait un film, par exemple, sur la guerre en Irlande du Nord, en interrogeant un certain nombre de membres de l'IRA ou des forces loyalistes. Pour moi, cette histoire devait se raconter comme ça. Enfin, pour moi, il y a eu des très bons films de fiction aussi là-dessus. Le film de Steve McQueen, Hunger, est un très très bon film de fiction. Voilà. Là, il y avait quelque chose dans cette histoire-là, mais j'insiste bien sur le fait que cette histoire est exceptionnelle, particulière, et qu'avec Benjamin, avec les producteurs, on s'est emparé de cette histoire pour raconter, évidemment, cette histoire qui est une histoire vraie, donc... il y a toujours ce label de l'histoire vraie, mais à un moment ça devient une histoire de fiction, c'est-à-dire que moi je fais œuvre avec Benjamin, avec les acteurs qui vont interpréter les rôles, je construis des personnages, le personnage de Faustine devient un personnage de cinéma, il est tiré d'une histoire vraie, d'un personnage vrai que j'ai pu rencontrer, mais à un moment ce que j'en fais moi avec le film c'est le scénario de Benjamin, l'interprétation de Gisca Calvanda l'actrice, et on crée ce personnage de Faustine qui devient un personnage de fiction. C'est très important de savoir ça. Alors évidemment on n'est pas complètement innocent. On sait très bien que d'abord cette histoire-là se raconte aujourd'hui, et même si on a eu l'idée du film en 2015 et qu'aujourd'hui le film sort en 2019 et que l'histoire, je pouvais pas calculer que le 6 mars, le jour de la sortie du film, on allait être à peu près dans ce moment-là, les questions dont vous parliez tout à l'heure dans votre introduction, etc. Donc le film correspond forcément à une actualité, mais moi je dois remettre les pendules à l'heure et ramener au film, au cinéma.
Chez les modèles des personnages, quels sont les éléments que vous avez transformés pour en faire des personnages de fiction ?
J'ai transformé...
En particulier le personnage de Faustine.
Ouais, le personnage de Faustine. Les grandes lignes dramatiques de comment s'est passée l'histoire, comment s'est déroulée l'histoire, les interactions entre les personnages, et surtout ce qui m'intéressait dans l'histoire à la base et ce que je voulais raconter comme thème derrière, ils sont là. Enfin, on n'a rien inventé tout à coup. Elle est vraiment revenue, elle s'en est vraiment sortie, elle s'est vraiment rendue compte très vite qu'elle avait envie de repartir de là-bas. Donc toutes ces choses-là sont comme ça, le père et le fils, enfin... Après, les métiers de certains des personnages ne sont pas ceux de la réalité. Enfin voilà, on a fait œuvre de fiction. Donc à un moment, on s'est emparé de ces personnages et on a jamais simplifié, mais travaillé aussi sur une mécanique de thriller d'une certaine efficacité. Et ça, c'est forcément des choix artistiques de cinéma là aussi.
Samuel Blumenfeld, vous avez vu le film ?
Oui. Moi, la première chose, ce qui me frappe, donc de mon point de vue de journaliste de cinéma,
oui,
c'est à quel point le film, en fait, par l'histoire qu'il raconte, se raccorde automatiquement à une certaine mythologie. Cette mythologie, en fait, elle dérive d'un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma, qui est La Prisonnière du désert. Donc, film de John Ford, année 1950, et La Prisonnière du désert raconte l'histoire d'une jeune femme qui est interprétée par Natalie Wood, très jeune à l'époque, qui est enlevée presque toute petite par des Indiens, et John Wayne part à sa recherche durant des années. Et lorsqu'il la retrouve, eh bien, cette jeune fille est devenue une jeune femme, elle est devenue une Indienne, c'est-à-dire qu'elle est devenue une autre. Et cette idée, bien évidemment, d'un individu qui est quelqu'un, au départ d'une fiction et qui devient un autre au bout de cette fiction, est une idée profondément inquiétante et qui a été déclinée durant toute l'histoire du cinéma. C'est véritablement La Prisonnière du désert, c'est des films qui a été les plus répétés, les plus imités, comme Vertigo d'Hitchcock. C'est ce qu'on appelle dans le jargon cinématographique un film matrice. Mm-hmm. Donc un de ces films, comme ça il y en a une petite dizaine dans l'histoire du cinéma, qui infuse en fait des générations de cinéastes. C'est ce que raconte aussi en partie votre film, puisque c'est l'histoire d'une femme, enfin je veux dire, qui part avec son enfant qui a 5 ans, hein, c'est bien ça,
oui, ouais,
qui a 5 ans, et qui donc quitte la France pour l'État islamique, et donc bon bah elle devient une autre, et son enfant surtout va devenir un autre sans qu'on lui ait demandé son avis. Là où le scénario est infiniment plus inquiétant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous interpelle, c'est que autant dans la première heure du désert, bien ce qui arrive à cette jeune fille, bah c'est le destin qui s'abat sur elle, alors qu'ici c'est ici dans votre film et dans la réalité, en fait on parle de gens qui ont choisi ce destin, qu'on choisit en fait de quitter la démocratie, de quitter l'Occident, de quitter en fait le monde des Lumières pour entrer de plein gré dans celui des ténèbres. Mmh. C'est pour le coup, en même temps, c'est la même histoire, et c'est en même temps une toute autre histoire. Avec comme interrogation principale, enfin en tous les cas pour moi, hein, celle qui m'interpelle depuis des années, et à laquelle j'ai des réponses, mais j'ai pas la réponse, c'est que pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces gens ont choisi de quitter le monde des Lumières ? Quand je dis le monde des Lumières, c'est, je parle de la civilisation des Lumières, qui est l'Occident, pour rentrer dans la barbarie islamique.
Mmh. Mmh. Oui, et dans le film de John Ford, John Wayne va rechercher la fille kidnappée, comment exfiltrer le mari et son employeur vont rechercher la fille qui est partie.
Absolument.
Donc le schéma, enfin le parallèle existe vraiment.
Le parallèle existe vraiment.
Mais il y a une grande différence quand même. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. On va en reparler dans 5 minutes. Mais d'abord, Mark Ecker, le film et.
Oui, j'ai vu le film aussi.
Que vient de dire Samuel Blumenfeld.
Évidemment, moi je ne suis pas critique de cinéma, donc j'ai pas pensé à John Wayne. J'ai plus pensé aux individus que j'ai vus à la barre au tribunal,
oui,
qui revenaient de Syrie et qui correspondait en fait très peu au cas de Faustine. Alors je ne dis pas que les Faustines n'existent pas, les Faustines existent puisque ce film est basé sur une histoire vraie, mais les Faustines ne sont absolument pas l'archétype du revenant de Syrie ou de la revenante de Syrie. Déjà, il y a un élément qui est dit dans le film et qui est vrai, qui est que les femmes avaient moins tendance à revenir que les hommes. Ça, c'est vrai pour les premières années des retours. Je vais donner quelques chiffres, je ne vais pas être trop lourd là-dessus, mais on a eu des chiffres officiels assez précis en février 2018, donc il y a un an. À l'époque, il y avait 323 Français, mm-hmm, qui étaient de retour de zone syro-irakienne. Sur ces 323, il y avait 22% de femmes majeures, donc on voit que les femmes sont une minorité. Il y avait 21% de mineurs et il y avait 56,8% d'hommes majeurs. Les hommes étaient très largement majoritaires. Le gros de ces retours ont eu lieu avant 2016. Ce qui est vrai, c'est que les retours qu'il y a eu au compte-gouttes depuis lors sont plutôt des retours d'enfants, puisque la politique de la France a été de dire on ne veut plus d'hommes majeurs, on ne veut pas, surtout pas de combattants. Et puis au compte-gouttes, il y a aussi eu des femmes qui sont revenues. Donc les proportions que je mentionnais avant sont peut-être maintenant un peu plus élevé au niveau des mineurs et un peu plus élevé au niveau des femmes majeures, mais les femmes majeures restent quand même une minorité. Ça, c'est le premier point. Quand on parle de femmes majeures, il y a aussi des cas de figure très différents. Il y a effectivement des personnes un peu naïves, avec aussi un profil psychologique très compliqué qui n'est pas tellement montré dans le film, mais qu'on connaît si on a lu un ouvrage qui a inspiré le film, qui est Dans la nuit de Daesh et qui est sorti chez Robert Laffont en 2016, le profil psychologique très compliqué de la personne en question, de Faustine, c'est une personne qui est déracinée parce qu'elle est née au Cameroun, elle est arrivée ensuite en France, elle a été orpheline très jeune, son père est mort quand elle avait 2-3 ans, sa mère qui était infirmière est morte quand elle avait 9 ans, donc on voit qu'il y a vraiment une difficulté majeure dans son parcours d'enfant. Elle évoque elle-même d'ailleurs une dépression infantile non diagnostiquée. Et puis ensuite, quand elle est devenue adulte, qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu elle-même un enfant, elle avait également un vrai mal-être qu'elle exprime dans l'ouvrage. Il y a d'autres cas de femmes qui ne correspondent pas à ce profil-là. Il y a des femmes très dures, très radicalisées, et qui aimeraient bien, sans doute, commettre des attentats en France si elles n'étaient pas derrière les barreaux aujourd'hui. Donc je pense faut bien
on
voir...
On pense à Ayad Boumediene, par exemple.
Je pense, par exemple, puisque vous avez mentionné Fabien Klein au début, je pense par exemple à la sœur de Fabien Klein,
Fabien Klein
est aujourd'hui aussi, en prison
tout
en France.
Tout à fait.
Donc, encore une fois, c'est une œuvre de fiction inspirée de la réalité, qui représente une réalité, mais qui n'est pas l'archétype des revenants de Syrie.
C'est pour Samuel.
Juste évoquer une image, parce qu'en fait, c'est une image qui fait désormais partie de notre patrimoine commun. Le jour de l'attentat de l'hypercacher, la compagne d'Amédi Coulibaly, on la voit à l'aéroport en Turquie, accompagnée, justement, passer de l'autre côté.
Passer de l'autre côté. De l'autre côté.
C'est une image que l'on a tous vue. C'est une image qui nous a tous marqués, parce qu'elle elle signifie notre impuissance, et elle signifie aussi également notre dégoût devant cette criminelle qui passe, pour le coup, du côté de la barbarie islamique, et, ne, et on le sait, ne reviendra jamais de l'autre côté, et d'ailleurs n'est jamais revenue. Cette image-là, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, hein, fait partie de notre patrimoine désormais.
Le passage aux frontières.
Oui.
Elle devient l'autre.
Oui. Et c'est le parcours du film, hein, c'est Turquie.
Oui. Bon. Sauf qu'il y a un retour.
Mais c'est pour ça que voilà, moi je veux un peu ramener aussi ça au cinéma et à la fiction. C'est pour, j'entends tout ça, évidemment j'ai lu énormément de livres, sans doute les Revenants de David Thompson étant un des livres qui m'a énormément marqué. Le profil de Faustine, le profil de ce personnage, il permet justement, alors Samuel Blumenfeld a admirablement parlé de La prisonnière du désert, moi il y a un autre film qui m'a guidé par exemple par rapport au parcours de Faustine, parce qu'évidemment, quand on raconte l'histoire d'un personnage, ça n'est pas le seul personnage du film, mais c'est un des personnages principaux, il faut quand même qu'à un moment...
Là, c'est le moteur narratif.
Voilà, mais que le spectateur puisse un tout petit peu s'y retrouver. Il, a priori, à la base, il rejette totalement Faustine. Et il a, évidemment, son acte est stupide, absurde, naïf, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis, à un moment, il faut quand même que... tout personnage intéressant a une évolution dans un film. À un moment, elle a un réveil par rapport au fait qu'elle a amené cet enfant qui est le sien dans l'enfer et qu'elle veut l'en sauver. Et à partir de là, le spectateur peut, en tout cas, avoir envie qu'elle sorte cet enfant de l'enfer. Sans doute, si ça ne concernait qu'elle, ça ne s'intéresserait pas beaucoup le spectateur. Là, ça l'intéresse. Et souvent, quand on est en train de démarcher pour trouver le financement d'un film, etc., on se doit d'expliquer à certains personnages. Évidemment, les questions sur ce personnage étaient multiples dans les différentes commissions qu'on a eu à affronter. Et moi, je prenais souvent l'exemple, avec toute humilité, du personnage de Robert De Niro dans Taxi Driver, qui est un personnage très peu sympathique pendant assez longtemps dans le film, et qui à un moment, quand il se met en branle pour sauver, dans une extrême violence, le personnage de Jodie Foster, qui est une mineure prostituée. Je prends délibérément un exemple d'un film de fiction qui n'a pas grand-chose à voir avec la déradicalisation, mais... on est avec lui. On a envie qu'il sorte Jodie Foster de l'enfer où elle est. Et il y a une forme de rédemption. Voilà, il y a un peu cette idée-là chez Faustine à un moment. C'est qu'elle elle témoigne évidemment d'une actualité, de tout ce qu'on veut. Mais le personnage de cinéma Faustine, il y a un moment, il y a un moteur qui fait que, bon, on le suit. On est avec elle.
J'aimerais revenir à la dialectique fiction-réalité, qui me semble importante dans notre discussion.
Oui.
En écoutant Emmanuel Hamon, je comprends bien que la fiction dépasse un peu la réalité. Et moi, j'ai assisté à un certain nombre de procès où la réalité dépassait la fiction. Et franchement, un certain nombre de cas, si on les avait portés à l'écran, à mon avis, ils auraient fait l'objet de critiques de cinéma très négatives sur le mode, c'est tout à fait improbable, c'est n'importe quoi. Oui. J'ai notamment en tête un procès de la fin 2017, c'est un véritable triangle amoureux à la Jules et Jim sur fond de djihad, avec deux convertis, en fait trois convertis, mais un qui a une mère d'origine algérienne, les deux autres viennent d'Annecy, ne connaissent absolument rien à l'islam, et finissent petit à petit, par jeu amoureux presque, à vouloir partir en Syrie. Il y en a un qui part vraiment, qui passe plusieurs mois au sein d'un groupe qui s'appelle Jaïch Mohamed. Les deux autres essayent de partir. La fille essaye deux fois, est renvoyée de Turquie. Et puis, le troisième qui fait ça pour séduire la protagoniste finit par renoncer et finalement par partir en Corse avec des amis. Vraiment des choses un peu hallucinantes, quoi. Et ces personnes-là donc se présentent à la barre fin 2017. L'individu qui a passé plusieurs mois en Syrie est condamné lourdement. Les deux autres sont condamnés parce qu'ils ont quand même été impliqués dans une entreprise terroriste, mais sont condamnés de manière suffisamment légère pour qu'ils ne puissent pas aller en prison. Et ils se présentent à la barre, la justice étant suffisamment lente, ils se présentent en disant « Mais écoutez, en fait, on est complètement sortis de tout ça, on n'est même plus musulmans. » Et ces deux individus s'étaient mariés, en fait, religieusement, à l'époque où ils étaient encore musulmans, alors qu'ils étaient sous contrôle judiciaire et qu'ils avaient interdiction de se voir. Et donc le juge dit, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et on avait affaire à des individus qui ne se rendaient pas compte.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Alors, c'est un cas parmi d'autres, là encore, c'est pas du tout un archétype. J'ai aussi vu des procès avec des gens extrêmement déterminés, avec une idéologie très très forte et qui revenait de Syrie avec des intentions violentes extrêmement claires, qui sont aujourd'hui en prison, certains commencent à sortir, et qui en sortent toujours aussi déterminés.
Absolument.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann. Are we drifting? Are we adrift? Strange feelings as temperatures shift. Are we dreaming of more than this? We make our death tapes, send them into the abyss. Deeper than the sound that took my body to the ground, I dig this hole. As we walk on, as we walk on, as we stroll, as we stroll, the ground will swallow.
Emmanuel Lamont, à propos de votre film Exfiltrés, pas Les Exfiltrés, hein, c'est bien Exfiltrés.
Exfiltrés, oui.
Vous avez parlé de Taxi Driver, Samuel Blumenfeld a parlé de La Prisonnière du Désert. Moi, ce qui me frappe dans ces deux films, quand même, en référence, c'est que dans les deux cas, il y a la violence, la paranoïa, dans le cas de Taxi Driver, et il y a la haine dans La Prisonnière du Désert. Le personnage de John Wayne, le personnage qui est habité par la haine au point qu'il finalement il ne reste pas, il disparaît à la fin.
Il est raciste.
Il est raciste, bien sûr. Et ce qui me frappe dans votre film, c'est que la haine n'est en apparence nulle part.
La haine, elle est chez des personnages, on va dire, secondaires. Mais quand même, quand Faustine arrive à Raqqa, qu'elle franchit la frontière, elle se retrouve avec trois jeunes de la ville de banlieue française d'où elle vient, et ces trois jeunes, l'émir qu'elle va rencontrer, qui est un haut dignitaire de Daesh dans la ville, et tout ce qu'elle voit, tout ce qui la rattrape très rapidement, c'est quand même d'une grande violence. C'est la haine.
Mais je pensais au personnage de Faustine. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais ça. On ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est la grande question. Pourquoi elle part?
Alors,
c'est quand même. En plus, ça se passe. Vous avez situé le film au printemps 2015, mm-hmm. c'est-à-dire à un moment donné, où quand même on est après les attentats de Charlie Hebdo et de Hyper-Cacher. Donc il y a une montée très claire de la violence en France. Au printemps 2015, les attaques commencent à se multiplier, on sent la tension monter. Et effectivement, c'est le moment où des gens commencent à partir. Enfin, c'est à ce moment-là que ça se joue, n'est-ce pas, Marc Ecker? Ça a commencé avant.
Le phénomène commence vraiment en 2012. Et oui, il y a une vraie accélération en 2014 quand Daesh proclame le califat.
Il proclame le califat. Mais c'est au printemps 2015. La violence, elle est là, elle est visible. Les vidéos de l'État islamique commencent à circuler. Donc, le personnage de Faustine ne peut pas vraiment ne pas les avoir vus.
Ah non, mais que ce soit bien clair, hein, je ne suis d'ailleurs ni un chercheur, ni un sociologue, ni historien. Je suis vraiment un réalisateur de cinéma et voilà, je me remets à ma place qui est donc le personnage de Faustine, il m'intéresse, y compris dans la réalité, parce que c'est quand même pas, c'est ce que disait très bien Marc tout à l'heure, pas le portrait même de la radicalisée fanatique qui part pour faire le djihad. C'est pour ça que c'est possible de raconter cette histoire aussi. Mais le personnage de Faustine, et ça n'est pas un film sur pourquoi elle part, mais sur elle part et voir le voyage de retour, c'est un personnage qui justement est avant tout une paumée. Enfin, elle est paumée, dans sa vie sentimentale ça va pas bien dans son couple, on comprend, dans la place qu'elle voudrait occuper ou qu'elle pense pouvoir intégrer dans la société française, visiblement elle ne l'a pas trouvée, mais en tout cas elle pense que aller là-bas pour servir un état meilleur, etc., elle y croit, c'est toute sa bêtise et sa naïveté, mais elle y croit, et elle est très vite rattrapée par la réalité, elle a envie de sortir son enfant de là-bas. C'est ce trajet-là que je peux raconter avec ce personnage-là, mais que je ne pourrais pas raconter avec tous les profils dont tu as parlé tout à l'heure, Marc. C'est évidemment pas du tout.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne contextualisez pas du tout son parcours.
Non.
Dans la France de 2015.
On s'est interrogé à un moment avec Benjamin Dupas sur justement traiter un peu plus pourquoi elle part, comment elle part, etc. Il y a eu des films là-dessus, etc. Moi, je pense que c'est un sujet en lui-même, ça. C'est un autre sujet, c'est un autre film, c'est voilà.
Oui, mais même sans expliquer ou sans traiter la question des motivations complètement, simplement l'idée de contextualiser un peu plus la France de cette année-là.
C'est quelque chose que je ne fais pas tout à fait consciemment. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le pour moi le sujet de ce que j'ai envie de raconter.
Tamel Blumenfeld.
Moi, je dirais, enfin, c'est ce qu'on ne comprend pas, en fait, enfin, ce qu'on comprend, ce qui reste une interrogation pour nous, c'est le mécanisme qui fait que cette personne part, que ces personnes-là partent, en fait. Je vous dirais, pour poursuivre une autre analogie cinématographique, je penserais à un grand classique de la science-fiction des années 50, qui est L'invasion des profanateurs de sépulture, qui était justement un film produit en pleine guerre froide, et qui justement racontait des gens qui, suite à une invasion extraterrestre que personne n'a remarqué, en fait, ces gens-là sont remplacés par leurs doubles, donc ils sont exactement les mêmes, mais en fait, ils sont plus du tout les mêmes. Ils ont perdu tous leurs affects. Ce que nous, on a besoin de comprendre, c'est qu'est-ce qui provoque ce passage-là. Ce passage-là vers la radicalité, puisque là nous n'avons pas d'invasion extraterrestre, ça nous tombe pas du ciel, donc ça existe bien sur Terre, et donc principalement dans nos banlieues. Dans certaines banlieues. Qu'est-ce qui se passe?
Mais le terrain du film, c'est plutôt et le sujet du film qui m'intéresse plus, en dehors même de Faustine, c'est de trouver c'est de raconter une génération là qui a 25-30 ans. Il y a trois personnages dans le film qui ont entre 25 et 30 ans. Le personnage de Gabriel, le jeune garçon français qui travaille dans une ONG et qui s'engage sur le terrain.
Qui va aider
du bon côté, on va dire.
Voilà, du bon côté, qui va aider Sylvain, le mari, à exfiltrer Faustine.
Exactement, et qui est le fils de Berling. Il y a ce résistant réfugié syrien qui renonce à vivre dans son pays parce que ça ne sert plus à rien. Enfin, pour lui, ça ne sert plus à rien. Il a perdu sa famille et donc il fait le voyage contraire à Faustine. Il va venir en France. Et il y a Faustine qui est de la même génération, qui est la jeune femme dont on a parlé, qui est perdue et qui se perd et qui s'engage aussi d'une autre façon. Mais finalement, ces trois personnages partagent quelque chose entre eux, et c'est ça qui m'intéressait, moi. C'est un engagement. C'est-à-dire un engagement bon, mauvais, hein, mais un engagement. Un engagement, c'est-à-dire trouver une place qu'ils n'ont pas encore trouvée à leur âge et qui est aussi un âge qui permet des engagements souvent extrêmes, excessifs. Encore une fois, je ne porte pas de jugement et je n'essaie pas de comparer des choses qui... Mais c'est des engagements. On peut le prendre par où on veut. C'est le cas. Et qui sont pour moi, alors c'est là où je vais un peu vous choquer, etc. Mais qui font que, évidemment, on parle de cette histoire-là à ce moment-là, parce que ces jeunes-là sont concernés par ce conflit-là. Mais si j'avais fait le film sur une histoire réelle il y a 15 ans, j'aurais pu faire un film sur quelque chose qui aurait eu un rapport avec l'ex-Yougoslavie. J'aurais pu faire un film sur encore d'autres conflits. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je ne fais pas œuvre de raconter tous les tenants et les aboutissants et de faire un portrait de tous les cas qui sont dans les livres de David Thompson et des choses comme ça ou dans ce que vous voyez.
Ah non, bien sûr.
C'est cette histoire-là particulière. Donc j'insiste bien là, et moi je suis obligé de ramener toujours à l'histoire de ce film qui n'est pas l'histoire de tout ce qui se passe depuis 2012 en France. C'est très important.
Mais bien sûr, mais ce que dit Samuel Blumenfeld, si je comprends bien, c'est que ce qui lui semble manquer, c'est l'étrangeté.
Il y a une étrangeté pour nous. Il y a une étrangeté pour nous, c'est indéniable. C'est l'étrangeté, c'est qu'est-ce qui fait que ces gens-là basculent de l'autre côté.
C'est-à-dire que même sans répondre à la question, faire sentir que le truc n'est pas...
Et donc, qu'est-ce qui fait, justement, quel est le point de bascule, quoi? Qu'est-ce qui fait que ces gens deviennent un autre?
Voilà.
Moi, je pensais que vous mettriez peut-être davantage l'accent sur l'aspect sectaire, parce que c'est un point qui est mentionné dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle l'embrigadement ou embrigadé, je ne sais plus comment c'est mentionné exactement, et elle met en cause justement les trois acolytes français qui sont arrivés sur place, qui sont arrivés dans le livre en septembre 2014. Donc c'est avant pour le coup les attentats. Alors là, c'est pour ça que c'est un peu une phase charnière dans le conflit et dans le conflit vu de France. Et il est probable que la protagoniste, dans le fond, ait commencé sa phase d'embrigadement avant les attentats, et puis ait vraiment sauté le pas après. Mais je ne sais pas quelle est l'importance réelle des attentats dans son cheminement personnel. Mais c'est vrai que le livre et le film n'en parlent pas. Donc c'est une question qui aurait pu être effectivement posée. Il y a un point, moi, aussi que j'aimerais mentionner. Enfin, il y a deux points. Il y a un point qui est la peine au retour. Je pense que c'est un point important. Elle prend une peine extrêmement légère, et j'aimerais dire quand même, pour peut-être rassurer les auditeurs, que là encore, ce n'est pas la norme. La peine moyenne des personnes qui sont revenues de Syrie, c'est 7 ans. Et il y a un autre point qui est le rôle des autorités françaises là-dedans. Je trouve que vous êtes un peu dur avec les autorités françaises, mais en même temps, c'est un point qui est souvent mis en avant par les familles qui ont été concernées par ces phénomènes, qui consiste à dire, mais pourquoi les autorités françaises n'ont pas empêché nos enfants de partir? Et puis, pourquoi elles ne sont pas allées les rechercher une fois qu'elles étaient sur place? Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été empêchées? Ça, c'est pas dans le film, mais il y a un point quand même que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y avait pas de moyens légaux de le faire avant le 13 novembre 2014. C'est une nouvelle loi qui a été votée, qui a permis de retirer les papiers aux individus suspectés de vouloir se rendre sur zone. Mais avant cela, on disait, bah, écoutez, ce sont des adultes, ils veulent voyager, ils peuvent voyager, on peut pas les en empêcher. Pour ce qui est du retour, alors ce que vous décrivez est exact, c'est-à-dire que les services français ne sont pas allés exfiltrer des Français de Syrie. En revanche, il a pu y avoir des échanges, y compris téléphoniques, avec des Français présents en Syrie. C'est d'ailleurs comme ça que commence le livre de David Thompson que vous citiez avant Les Revenants. C'est un échange téléphonique entre un djihadiste français qui veut sortir de Syrie et une personne du consulat de France en Turquie. Et le djihadiste dit, voilà, je veux sortir, j'ai mes 3 enfants, dont un nourrisson, est-ce que vous pouvez nous aider? Et la personne du consulat lui dit, je ne peux rien faire pour vous en Syrie. En revanche, on a des contacts avec les autorités turques et on va faire en sorte au moins que les Turcs ne vous tirent pas dessus quand vous arriverez à la frontière ou proche de la frontière.
Je voudrais revenir sur cette histoire d'engagement, Emmanuel Hamon. Qu'est-ce qui vous intéressait spécialement dans l'idée d'engagement? Parce que vous dites, vous traitez les personnages sur le même plan. Parce que s'il s'agit d'un film générationnel, j'ai bien compris.
Sûr. Entre autres,
Et que ce qui vous intéresse, c'est de voir des gens de cette génération qui s'engagent. Oui, peu importe dans quelle cause, si j'ai bien compris.
Non, quand même pas. C'est-à-dire, évidemment, je suis plutôt du côté de... Enfin, la question d'ailleurs de savoir de quel côté je suis n'est pas vraiment intéressante. Mais je pense que oui, ça raconte quand même que Gabriel et Adnan, qui ont 25 ans, vont mettre en place une opération assez incroyable avec les moyens du bord de leur génération, des tablettes, des smartphones et les connexions qu'ils ont sur le terrain de certains mouvements de rebelles en Syrie. Oui, je trouve ça intéressant, ça m'intéresse vraiment. Mais on pourrait très bien aujourd'hui faire un film du même genre sur l'engagement de la jeunesse pour par rapport à des causes comme le réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire qu'il y a un aujourd'hui politiquement, idéologiquement, une jeunesse qui, parce que c'est l'âge des engagements importants, excessifs, possibles, s'engage pour se substituer à tort ou à raison l'impression qu'elle a que le pouvoir politique ou les pouvoirs politiques en place dans leur pays ne remplissent pas cette mission. Je dis pas que la mission qui aurait consisté à sortir Faustine de l'enfer de Raqqa est une mission qui échoua au gouvernement français. Mais en tout cas, la preuve est faite dans cette histoire qu'il y a des positives idées alternatives.
Vous pensez qu'on peut vraiment faire le parallèle entre l'engagement pour la cause écologique ou le fait de s'engager pour faire sortir Faustine de Raqqa et la démarche de quelqu'un comme Faustine, qui comme le disait Samuel Blumenfeld, quitte totalement les lumières.
Bien sûr, non, mais il y a aucun doute.
Est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle entre les différentes positions?
Je raconte quelque chose par rapport à un âge et par rapport à un âge d'engagement. Donc l'engagement mauvais de Faustine, l'engagement mauvais de. J'essaye de ramener des choses à des choses un peu plus intemporelles et universelles, mais on peut évidemment revenir là, mais. L'engagement de Lacombe-Lucien dans le film de Louis Malle, c'est un engagement, qu'on le veuille ou non, malgré lui, à cause de parchemin. Faustine, elle est sans doute aussi paumée, elle trouve pas sa place. Encore une fois, je ne justifie pas Faustine, qu'on s'entende bien là-dessus. Mais elle forcément, ce choix-là, délirant, absurde, qui met en danger son fils, qui met à mal la confiance de son mari quand il l'a conduit à l'aéroport, est un choix. Personnage.
J'aimerais plutôt réagir sur la question de l'engagement. En fait, ça renvoie en termes académiques à ce qu'on a appelé l'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'universitaires ont expliqué qu'il y a un certain nombre de jeunes individus radicaux qui ont envie de s'engager pour une cause radicale et qui ne se sont engagés pour Daesh ou Al-Qaïda parce que c'était l'offre radicale du moment. Mais il y a 40 ans, ils auraient pu s'engager pour l'extrême gauche. Gilles Kepel, lui, défendait la thèse de la radicalisation de l'islam en disant que le salafisme gagne du terrain dans les banlieues et que ça crée un terreau fertile à la radicalisation. Mais c'est vrai que ça n'est pas abordé dans le film, mais là encore, du coup, on n'a pas vraiment d'explication sur le processus de radicalisation. Est-ce que ces dynamiques entrent en jeu? Est-ce que c'est de l'embrigadement sectaire, ce qui correspond plus à la thèse de Dounia Bouzard, qui elle aussi a fait œuvre de fiction puisqu'elle est apparue au cinéma? Il n'y a pas encore d'explication scientifique dominante et absolue. Il y a des thèses qui s'affrontent jusqu'à présent. Et moi, je dois dire que là, je n'en ai cité quelques-unes, mais il en existe d'autres. Dans les 137 profils que j'ai étudiés, j'ai en fait vu un peu de tout.
On va finir cette émission, mais ce film sort au moment où le débat sur le retour des djihadistes et des familles de djihadistes va se poser en France. Emmanuel, vous avez un avis sur la question?
Non, c'est la question que me posent tous les journalistes en ce moment. Encore une fois, je ne me sens absolument pas justifié pour avoir donné mon avis sur cette question. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est extrêmement compliquée. Il y a des gens plus à même d'éclairer. Il y a des juristes aussi, parce que je pense que c'est aussi des questions de droit très compliquées. Le film ne donne pas d'ailleurs son avis sur cette question-là. Il a été fait avant,
non,
sur une histoire qui s'est passée avant,
non,
etc.
Non, mais il laisse entrevoir, quand la policière, à la toute fin du film, quand la policière reçoit Postine et qu'elle lui dit « on ne va pas te mettre les menottes », le film laisse entrevoir une certaine forme de compréhension.
Bah, encore une fois, le cas de Faustine est très particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que...
Oui, mais la policière ne peut pas le savoir.
Bah, elle est quand même au courant de cette histoire. Elle a parlé avec le mari, elle a interrogé d'autres gens, etc. Après, ce que fait la policière à la fin ou la dernière scène de ce film n'est pas une espèce de cas d'école pour l'appliquer aujourd'hui à tout ce qui se passe et le retour des femmes ou des enfants.
On a le sentiment qu'il y a quand même une sorte de réconciliation à la fin.
Du couple?
De l'ensemble, c'est-à-dire du couple, mais aussi de Faustine avec les représentants de la société française, en l'occurrence les policiers.
Vous avez eu cette impression-là?
C'est l'impression que ça donne un peu.
D'accord. Ben, peut-être. Moi, j'ai l'impression aussi que ça raconte que des jeunes qui se sont engagés sur le terrain ont réussi l'opération, mais en même temps en faisant des victimes collatérales du côté syrien. J'ai l'impression que quand même cette famille est lourdement impactée par ce qui vient de se passer. J'ai l'impression que les pouvoirs en place sont eux aussi un peu largué par rapport à tout ça, ce qui m'a l'air d'être aussi un peu... Enfin, tout ça est complexe. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même de donner, là encore, pas du tout ni une leçon de géopolitique, ni mon avis sur le retour aujourd'hui des... Mais en tout cas, de rendre un peu plus humain tous ces personnages, y compris les personnages qui sont a priori des personnages qu'on a envie de rejeter complètement.
Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'à cette époque-là, donc, de 2015, les femmes qui revenaient étaient surtout vues comme des victimes.
Oui.
Donc ça me semble pas absurde, la manière de montrer les choses. La perception des autorités par rapport aux femmes a vraiment changé en 2016, et notamment la tentative d'attentat près de la cathédrale Notre-Dame à Paris a beaucoup joué. Aujourd'hui, les femmes sont systématiquement judiciarisées comme des hommes, mais ce n'était pas forcément le cas au début de ces filières syro-irakiennes.
Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Le passage de Faustine est une africaine, d'origine africaine, qui est une chose qui joue dans ses rapports de force ou de domination, ou plutôt de suggestion avec des congénères qu'elle retrouve à Raqqa. Qu'est-ce que ça induit, en fait, le fait qu'une femme soit d'origine africaine, donc soit convertie à l'islam et donc choisisse de rejoindre l'État islamique? Voilà, c'est ce qui m'interroge.
Alors moi, je réponds sur le personnage et après, j'insiste sur le fait que Faustine est avant tout française, dans le film en tout cas, elle est française. Elle a des origines, elle est évidemment orpheline, enfin tout ça n'est pas... Voilà, mais quand on construit un personnage, on se raconte beaucoup de choses sur le personnage, entre autres avec le scénariste. Elle a un problème de racine, en tout cas général, sur le plan de son père, de sa mère, de là d'où elle vient. Elle est noire, surtout. Et c'est ce qu'elle renvoie à la face des gens qui, à un moment, vont l'enfermer, là-bas. Donc, cette condition-là, ces racines, cette idée de l'esclave, enfin, toutes ces choses qui ont été, d'ailleurs, complètement manipulées dans la propagande de Daesh, elle l'a mal digérée et elle le relance. Donc, évidemment, ça fait partie de cette impression qu'a Faustine et du fait qu'elle soit un peu paumée, de non-intégration, en fait. C'est ça que je pourrais dire par rapport, moi, au personnage, mais...
Dans mes 137 nuances de terrorisme, il y avait 9% des individus dont les parents étaient originaires d'Afrique subsaharienne. Et beaucoup plus du Maghreb, hein, c'était à peu près 60% du Maghreb. Mais l'essentiel des individus eux-mêmes étaient français, à plus de 90%. Et c'est le cas aussi de la personne qui a inspiré le personnage de Faustine. Ce que ça m'évoque, c'est deux choses. Ça m'a fait penser à la fois à la problématique du déracinement, puisqu'effectivement il y a un déracinement à l'origine, et puis il y a un problème de transmission de culture, puisque les parents sont morts quand la personne qui inspirait Faustine était très jeune. Ça m'a fait penser à l'ouvrage donc de Toby Nathan, qui est cet ethnopsy. Son ouvrage s'appelle Les âmes errantes, et il pointe justement ce double déficit, hein, le déracinement d'une part, et puis le manque de transmission culturelle d'autre part.
Il reste une grande énigme quand même, c'est-à-dire que amérante ou pas, il y a à un moment donné une vraie cette époque, on va finir là-dessus, cette époque de 2015, c'est quand même le moment où les vidéos de Daesh commencent à infecter Internet. C'est des vidéos particulièrement gore contre-intuitivement, ça marche. C'est-à-dire que des gens trouvent ça fantastique et partent à cause de ça.
Alors, moi, à l'époque, j'avais publié en juin 2015 une étude qui est sur le site de l'IFRIC, vous pouvez aller consulter, qui s'appelle « Web social et djihadisme du diagnostic Ormed ». Donc je passais mon temps sur Twitter dans ces sphères-là, et mon fil Twitter était devenu une véritable encyclopédie de crimes de guerre, sans que ce soit véritablement sollicité. Ça venait en permanence. Quand on est dedans, on ne peut pas louper ça.
Oui.
Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'essentiel de la propagande de Daesh, ce n'était pas des images d'ultraviolence. Et notamment un chercheur britannique qui s'appelle Charlie Winter avait bien montré ça à l'époque. La grande majorité des vidéos de Daesh et des images et des textes produits par Daesh, c'était la présentation d'une société utopique. C'était la présentation du califat idéal qui allait se réaliser. Il y a des individus probablement qui n'ont voulu voir que cela. Et c'est sans doute le cas de Faustine. Mais en même temps, on ne peut pas exonérer totalement ces individus-là. Parce que quand vous preniez les web magazines de Daesh à l'époque, vous aviez effectivement l'essentiel du web magazine qui était là-dessus.
Oui.
Mais en tournant la page, vous aviez des têtes coupées.
Ben voilà. Oui, c'est ça. Donc l'un allait avec l'autre.
L'un allait avec l'autre, tout à fait.
Et il ne pouvait pas ne pas le savoir.
On ne pouvait pas ne pas le savoir.
Et ça, c'est une des énigmes de Faustine aussi dans le film.
Mais
que vous laissez hors champ.
Encore une fois, je suis tout à fait conscient de ce que je fais. Le moment de la décision du départ, de la radicalisation, si même si le personnage de Faustine n'est pas l'image, le portrait type du radicalisé, on prend pas le personnage au début du film à ce moment-là.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la violence du personnage n'est pas traitée.
La violence de son acte, elle est traitée. C'est-à-dire qu'elle part avec son enfant là-bas. C'est quand même extrêmement violent. Je ne vois pas comment, pendant à peu près la première demi-heure du film, on peut accepter ce que fait Faustine. Donc pour moi, c'est extrêmement violent. Quand je vous parlais tout à l'heure de Niro dans Taxi Driver, moi, le personnage de Niro dans Taxi Driver, pendant 40 minutes, je peux être fasciné par l'acteur, je peux être fasciné par la mise en scène de Scorsese, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec Faustine. Alors après, chaque spectateur, il y a des spectateurs là sur pendant les avant-premières qui basculent au moment où l'enfant va tirer ou à d'autres moments, justement au moment où Faustine voit son enfant regarder des images de propagande et se dit bon, il faut vraiment que je le sauve de là. Il y a un moment de bascule dans le film, c'est ça que j'ai construit. Mais la violence de l'acte de Faustine, elle est là, elle est complètement présente dans le film. J'essaye pas de la rattraper dès le départ, au contraire. Et la sidération, si le spectateur se met à une place au tout départ, au début, c'est à la place du père. C'est-à-dire sidéré du coup qu'il n'a pas vu venir, mais de la sidération et de l'impuissance qu'il a d'ailleurs pendant une grande partie du film à pouvoir intervenir sur cette situation, faire revenir son enfant. God said to Abraham, kill me your son. Abe said, man, you gotta be putting me on. God said no. Abe said what? God said, do what you want, Abe, but the next time I'm coming, child, you better run. And Abe said, where you want this killing done? God said, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose, and the welfare department gave him no more clothes. He asked Boo Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know. Sam said, tell me quick, I gotta run. And old Howard just pointed at with his gun. He said, back down Highway 61.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Betzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans quelques instants, une histoire particulière.
Mac the finger said to Louis the King, I got 40 red, white and blue shoestrings. I got 1,000 phones, don't none of them ring. He said, maybe you know where I might be able to off these things. And Louis the King said, let me think for a minute, son. He said, yes, I think it can be easily done. Just take it all back down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father was nothing right. My complexion, she said, is much too white. He said, come on over here, child, step into the light. You're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored. He was trying to start the next world war. Found himself a promoter, fell off the floor. He said, man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed. We just put up some bleachers out in the sun, and we have it all back down on Highway 61.